bonjour. Ravi de vous retrouver cette semaine et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster, vous le savez, sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est directeur général adjoint du magazine Alternative Économique. Bonjour Jérémy Dousson.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Les Petits Matins un populisme à l'italienne pour, écrivez-vous, comprendre le mouvement 5 étoiles. Cet ovni politique surgit de nulle part en Italie, voici 10 ans. Qu'est-ce qui vous a précisément intéressé dans cette histoire, Jérémy Dousson?
Alors c'est vrai que je suis assez fasciné par la politique italienne et je trouvais qu'en France on avait une lecture peut-être mauvaise de ce que pouvait être ce mouvement. Les gens étaient pour ou contre pour de mauvaises raisons et je me suis dit après mon livre, l'idée c'est qu'ils continuent à être pour ou contre mais pour de bonnes raisons.
Alors l'Italie, on le sait, vote ce dimanche pour élire ses députés et le moins que l'on puisse dire est que la plus grande incertitude règne sur l'issue de ce scrutin. On constate une poussée des partis dits eurosceptiques, alors Ligue du Nord et aussi le mouvement 5 étoiles. Est-ce une surprise pour vous?
Alors c'est pas une surprise puisque depuis une vingtaine d'années maintenant, les Italiens qui étaient très europhiles, qui attendaient beaucoup de l'Union européenne, sont devenus petit à petit plus eurosceptiques. Et même aujourd'hui, on pourrait plutôt parler d'eurofrustration puisqu'ils sont pas satisfaits de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais ils souhaitent, pour une grosse partie d'entre eux, aller plus vite, plus loin dans l'intégration européenne. Et dans tous les cas, il y a une loi électorale en Italie qui fait qu'on ne devrait pas avoir, après les élections de dimanche, un gouvernement ouvertement eurosceptique et anti-Union européenne à la tête de l'Italie.
Mais est-ce que ces deux mouvements, la Ligue du Nord par exemple et le mouvement 5 étoiles, sont eurosceptiques de la même façon?
Alors non, clairement il faut nuancer alors notamment l'euroscepticisme du mouvement 5 étoiles. Si vous faites des enquêtes d'opinion en Italie, que vous posez la question êtes-vous pour ou contre l'Union européenne, vous allez avoir des taux de réponse négative à 80-90% dans les partis de droite, type la Ligue du Nord, type Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le mouvement 5 étoiles, comme sur beaucoup de ces questions-là, est plutôt au centre. Et très clairement, quand on rentre dans le détail de l'euroscepticisme de l'électorat du mouvement 5 étoiles, il s'agit davantage d'un euroscepticisme qui porte sur les institutions, le fait par exemple que la commission ne soit pas élue, que d'un euroscepticisme qui voudrait par exemple rétablir les frontières et les contrôles entre les différents pays de l'Union européenne.
Et le fait que le mouvement 5 étoiles soit, selon les derniers sondages, en tête des sondages, cela vous interpelle ?
Alors depuis des années maintenant, le mouvement 5 étoiles est le premier parti politique en Italie dans les sondages, donc c'est pas une surprise et il devrait effectivement remporter le vote populaire dimanche. Maintenant, il se présente seul, hors de toute coalition, et la loi électorale en Italie et même la tradition politique en Italie fait que hors de toute coalition, il est difficile de gouverner seul et donc il ne devrait pas pouvoir gouverner l'Italie sans passer justement des alliances avec d'autres partis politiques après le 4 mars.
Le mouvement 5 étoiles, on en reparle tout au long de cette émission.
7 jours dans le monde.
En Syrie, après et malgré l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu de 30 jours dans le pays, le régime a continué ses raids aériens, notamment contre l'enclave de la Ghouta orientale près de Damas. Des combats au sol sont également à l'œuvre dans deux secteurs ruraux de l'enclave rebelle, plus à l'est et dans des zones moins peuplées. Quant à la pause tant espérée par les centaines de milliers d'habitants pris au piège des combats, elle n'intéresse visiblement le pouvoir ni ses alliés russes. Néanmoins, mardi, pour tenter de forcer le destin, les rebelles de la Ghouta ont proposé par écrit de débarrasser la ville des djihadistes. Toufik Ben Aïchouch.
Des factions rebelles de la Ghouta orientale, toujours assiégées par les forces loyales au régime et pilonnées sans cesse par l'aviation russe, se sont engagées ce mardi, dans une lettre adressée aux Nations Unies, à évincer les combattants de groupes djihadistes en contrepartie de l'application de la trêve prévue par une résolution du Conseil de sécurité. Ces rebelles annoncent en effet qu'ils sont prêts à bouter hors de l'enclave les combattants de Tahrir al-Sham, ex-front al-Nusra affilié à Al-Qaïda, ainsi que leurs proches, dans un délai de 15 jours. jours à partir de l'entrée en vigueur de la trêve. C'était une demande de Moscou. Reste à savoir désormais si la Russie et le régime de Damas estiment que c'est suffisant pour desserrer l'étau autour de la Routa et alléger les souffrances des 400 000 civils pris en otage. Pour le ministre français des Affaires étrangères, en tout cas, maintenant que les rebelles se sont engagés par écrit dans leur lettre aux Nations Unies à accepter la trêve humanitaire, il faudrait que le régime de Bachar el-Assad en fasse autant. C'est ce que Jean-Yves Le Drian a déclaré à Moscou à son homologue russe Sergueï Lavrov.
Lueur d'espoir ou énième manœuvre politique en Afghanistan, après 17 ans de combat contre les Américains, les talibans leur proposent d'engager des pourparlers de paix. Rappelons qu'après avoir été chassés du pouvoir, les talibans n'ont jamais cessé de mener des attaques contre les forces de sécurité et qu'ils contrôlent désormais 40% du territoire afghan. En tout cas, la deuxième édition de la Conférence pour la paix qui s'est tenue cette semaine à Kaboul suscite beaucoup d'espoir et tout autant de scepticisme. Sonia Rezali à Kaboul.
Si les talibans déposent les armes, nous oublierons le passé pour nous tourner vers l'avenir. Propos du chef de l'État afghan ce matin dans son discours d'ouverture de la conférence de Kaboul. En juin dernier, la précédente édition n'avait rien donné. Nioz Mahamat, médecin à Kaboul, se dit tout de même optimiste.
Si Dieu le veut, cette conférence sera une réussite. J'ai bon espoir cette fois-ci. Je me dis qu'il y aura bien parmi les 25 pays présents, certains qui peuvent jouer un rôle dans les négociations de paix.
Le Pakistan est présent, un voisin souvent accusé de soutenir les insurgés sur lequel les États-Unis ont accentué leur pression dernièrement. Malgré cela, de nombreux Afghans ne croient plus au processus de paix comme Islamuddin.
Il y a déjà eu des tentatives d'amener les talibans à la table des négociations et cela a toujours échoué. Cette fois-ci, cela échouera aussi. Il n'y a aucun résultat, même si les Américains sont impliqués dans ces négociations.
17 années ont passé depuis la chute du régime taliban. Si ces derniers ont invité hier les Américains à négocier, Ruhullah, résident de Kunduz, dans le nord du pays, pense que la paix est encore loin.
De toute façon, il n'y a pas que la menace des talibans maintenant. Nous devons aussi vivre avec les menaces de Daesh. Il n'y a rien de positif à l'horizon.
Un plan global de paix sera annoncé à l'issue de cette deuxième édition de la conférence de Kaboul, a promis le président Ashraf Ghani.
Une nouvelle vague de purges en Arabie Saoudite. Après les milieux d'affaires et les membres de la famille royale, c'est au tour des militaires d'en faire les frais. Une série de décrets signés du roi Salman annonce le limogeage du chef d'état-major et de nombreux cadres de l'armée saoudienne. Anastasia Bekiou.
La série de décrets royaux publiés en soirée rebat les cartes au sein du ministère de la Défense, dirigé par le puissant prince héritier Mohamed Ben Salman. Le commandement de la défense saoudienne subit un vaste remaniement. Le chef d'état-major, le général Abdelrahman Ben Saleh Al-Bunyan, est remercié, nommé conseiller à la cour royale et remplacé dans la foulée par le lieutenant-général Fayyad al-Rouaili. Les chefs de l'armée de l'air et de l'armée de terre sont également remplacés. Les décrets royaux annoncent une série de nouvelles nominations au sein de plusieurs autres ministères. Fait rare dans ce royaume très conservateur, le poste de vice-ministre du Travail est attribué à une femme, Tamadour bint Youssef al-Rama. Le monarque saoudien a aussi décidé de nommer 3 vice-gouverneurs parmi les descendants de ses frères, les princes Ahmed, Talal et Moukrin, dont certains s'étaient sentis mis à l'écart. Ainsi, le nouveau gouverneur de la province d'Azir est le prince Turki bin Talal, frère du milliardaire Al-Walid bin Talal, arrêté en novembre dernier et confiné pendant 2 mois au Ritz-Carlton, Riyad, avec des dizaines d'autres princes et hauts fonctionnaires.
Mieux vaut ne pas être prince aujourd'hui en Arabie Saoudite. En tout cas, Jérémy Dousson, le Moyen-Orient fait encore et toujours la une des journaux. On parle de trêve à Damas, de paix à Kaboul, de purge à Riyad, mais à côté, que valent les petites préoccupations politiques italiennes ?
Alors, c'est vrai qu'à côté, ça paraît beaucoup moins important. Et surtout, si on regarde, en fait, l'histoire politique italienne sur 150 ans, ou même si là, quand on se plonge dans le détail de la campagne, on peut avoir une impression de chaos, d'incertitude, de risque d'ingouvernabilité. En fait, si vous regardez l'histoire politique italienne, l'Italie est habituée de ces situations-là. Elle a l'habitude d'avoir à gérer des parlements un petit peu suspendus entre des majorités instables. Ils appellent ça le transformismo, c'est-à-dire que de la capacité de créer des gouvernements de l'argentante, centre-gauche, centre-droit. Et à part l'intermède fasciste et quelques rares épisodes d'alternance dans les années 90-2000, l'Italie a toujours su se sortir de ces situations-là, quitte à repasser par des élections.
Néanmoins, il y a un intérêt à ces élections, peut-être pour la construction européenne elle-même.
Clairement, on parlait tout à l'heure beaucoup d'euroscepticisme, mais vous avez à l'autre bord de l'échiquier politique, notamment la coalition du Parti démocrate de Matteo Renzi, qui s'inspire de ce qu'a fait et de ce que fait Emmanuel Macron en France, qui prône les États-Unis d'Europe, avec un petit parti dans sa coalition qui s'appelle Più Europa, plus d'Europe, et qui pourrait créer la surprise à ces élections en dépassant les quelques pourcents qui leur étaient crédités dans les sondages au début.
Une semaine d'actualité.
Xi Jinping va-t-il devenir un président chinois à vie? C'est en tout cas rendu possible depuis la publication dimanche dernier par l'agence Chine Nouvelle d'un texte détaillant les amendements prévus lors du second plénum du parti. L'un de ces amendements fait disparaître la limitation à 2 mandats du poste de président. Second mandat que va entamer Xi Jinping avec les coups des franges. Angélique Forget à Shanghai.
Pour Xi Jinping, c'est un pas de plus vers un pouvoir illimité et sans partage. En proposant de modifier la constitution pour ne plus limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, le Parti communiste chinois ouvre la voie à son chef à une présidence à vie. Ce tour de force n'est pas une surprise. En octobre dernier, lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui a conféré à Xi Jinping un second mandat, il aurait dû, comme le veut la tradition politique chinoise, introduire un successeur et il ne l'avait pas fait. Ce qui laissait entendre déjà qu'il comptait garder la main. Cette proposition devrait être validée la semaine prochaine lors de la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire. À cette occasion, la pensée de Xi Jinping devrait être inscrite dans la Constitution, un honneur jusque-là réservé au seul Mao Tse-tung. Cela prouverait une fois de plus que Xi Jinping est l'autocrate chinois le plus puissant depuis le Grand Timonier.
Le retour de la Grande Coalition en Allemagne. La CDU a finalement approuvé à la quasi-unanimité un accord de gouvernement que la chancelière Angela Merkel a négocié avec le SPD, le parti de centre-gauche, deuxième poids lourd de la scène politique allemande. Les militants de ce dernier se prononcent cette semaine. Le résultat du vote sera connu dimanche et ne devrait pas changer la donne. Si Angela Merkel a fait des concessions à la gauche, en matière notamment de renforcement des institutions et sur la question des réfugiés, elle a dû aussi donner des gages à son aile droite en nommant au ministère de la Santé Jens Spahn, espoir de l'aile conservatrice de la CDU. Pascal Thibault à Berlin.
Des critiques au sein de la CDU, une chancelière sur le déclin chahutée par sa base, des militants chrétiens-démocrates estimant qu'Angela Merkel a sacrifié le programme du parti sur l'autel de sa survie politique pour obtenir le soutien des sociaux-démocrates. La CDU a à nouveau joué les Dr Jekyll et Mr Hyde avec un congrès extraordinaire au score presque nord-coréen. Plus de 97% des délégués ont approuvé le contrat de coalition conclu avec le SPD. Angela Merkel avait désamorcé les critiques en amont en présentant une liste de ses futurs ministres, rajeunis, et où figurait son opposant le plus connu. Lors du congrès, la présidente de la CDU a insisté sur les valeurs traditionnelles du parti, comme la sécurité, la famille ou les finances publiques bien gérées. Et la nouvelle secrétaire générale, la très populaire Annegret Kramp-Karrenbauer, possible successeur d'Angela Merkel, a été ovationnée comme une star.
Ça ne suffit plus de dire qu'un tel devrait faire ceci ou cela. Il faut prendre les problèmes à bras le corps. Et la réponse ne peut qu'être « je peux, je veux et je ferai ». Et c'est pourquoi je me mets volontiers au service du parti.
Un parti qui a répondu présent en élisant AKK, comme on l'appelle, avec 99% des voix du jamais vu depuis que la fonction de secrétaire général existe à la CDU.
Jérémy Dousson, la Chine a, semble-t-il, réglé la question du gouvernement de l'État. Un homme a le pouvoir, il le garde. À l'inverse, l'Allemagne cultive le compromis et finalement, ça marche aussi. Quel est l'exemple à suivre pour l'Italie?
L'Italie est clairement plus sur une logique de compromis, de combinazione. Alors les inciuccio, c'est-à-dire les petits chuchotements dans les palais romains qui donnent lieu à des majorités. Par rapport à Xi Jinping, il y a une réflexion en Italie, notamment au sein de la coalition des droites, pour aller vers un système plus présidentiel et moins parlementaire. Et il orgne avec envie notre bonne vieille 5e République et les pouvoirs qui sont conférés au président de la République française.
Alors justement, vous parlez de la 5e République en France. L'ascension ultra rapide du mouvement 5 étoiles est-elle l'effet d'un homme exceptionnel, Beppe Grillo, déjà très médiatique, ou est-ce plutôt un ras-le-bol général à un moment où la politique classique semble s'enliser?
En fait, c'est les deux qui se sont cristallisés. C'est-à-dire que Beppe Grillo était un comique à succès, qui pouvait rassembler 15 millions de personnes devant leur télévision au début des années 90, élu plusieurs fois comique de l'année en Italie. Et sa carrière s'est faite sur une satire politique très forte et justement la dénonciation des limites de la politique, de la corruption, des conflits d'intérêts. On oublie aussi souvent son alter ego de l'ombre, en fait, qui s'appelait Gian Roberto Casaleggio, qui s'appelait, puisqu'il est décédé en 2016, et c'est lui qui a organisé la plateforme Rousseau et tout ce qui est communication en ligne, le blog, tous les outils informatiques qui ont permis que derrière le mégaphone Beppe Grillo, les Grillini, donc les petits grillons comme on les surnomme, puissent s'organiser et devenir le débouché politique de ce que Beppe Grillo a condamné pendant des années sur les scènes et dans les théâtres italiens.
Alors vous l'écrivez dans votre livre, je le rappelle, un populisme à l'italienne sur le mouvement de Beppe Grillo. Vous écrivez « Nous sommes des citoyens, un point c'est tout », ne cesse de dire Beppe Grillo, ce mouvement qui ne se veut ni parti ni caste, quelle structure a-t-il précisément, ce mouvement ?
Alors ces paroles, ça fait partie de l'hymne du mouvement 5 étoiles qui avait été composé par des rappeurs et qui était lancé avant chaque intervention de Beppe Grillo. Alors comment s'organise le parti ? Sur le modèle de la démocratie plébiscitaire, et il s'agit de mouvements un petit peu à l'image des entreprises libérées, de mouvements politiques libérés. En France, depuis, on a eu des équivalents. La République en marche et la France insoumise fonctionnent sur le même modèle de la démocratie plébiscitaire. Vous plébiscitez un Bonaparte, Beppe Grillo en l'occurrence, puis Luigi Di Maio depuis quelques mois. Un leader charismatique, autoritaire diront certains, qui par contre fixe le cap et la vision. Et à l'intérieur du mouvement, vous avez le choix d'être d'accord et donc de rester et de vous auto-organiser pour suivre cette vision du leader ou alors d'en sortir. Vous êtes dans le mouvement ou vous êtes dehors, j'aime pas, en quelques clics, vous adhérez à la plateforme internet ou pas. Que vous soyez avec Beppe Grillo au mouvement 5 étoiles ou avec Emmanuel Macron, La République En Marche, ou avec Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise, c'est la même chose.
Et alors justement, où se situe le mouvement 5 étoiles ? À gauche, à droite, au centre ?
Alors eux disent ni droite ni gauche, ce qui n'est pas la même chose que et de droite et de gauche. Donc ni droite ni gauche, ils ont toujours refusé en fait ce clivage-là, ce qui est assez à la mode aujourd'hui, ils ont été précurseurs en Italie là-dessus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion, en fait c'est un parti plutôt centriste en termes d'électorat. L'électorat est très dispersé, c'est-à-dire qu'ils vont ratisser très large. Les chercheurs en sciences politiques parlent de catch-all party, un parti attrape-tout. Par contre, très dispersé autour du centre. Donc plutôt un parti centriste d'un point de vue électoral.
Un peu sur le mode de La République En Marche en France.
Alors, un peu sur le mode de La République en marche en France. Eux, par contre, viennent beaucoup plus du discours et de la remise en cause du système que ne pouvait le faire Emmanuel Macron, même si lui aussi a réussi une sorte de dégagisme, en fait, en renouvelant 70% de notre assemblée et en se présentant comme un homme neuf, hors des partis politiques traditionnels.
Et quel est le programme essentiel de ce mouvement 5 étoiles ? Est-ce qu'il est progressiste ? Est-ce qu'il est social ?
Alors, premièrement, renvoyer la classe politique actuelle à la maison, ça c'est la base. Et ensuite, plutôt progressiste sur les questions de société, euthanasie, mariage pour tous, etc. Plutôt hétérodoxe sur les questions économiques, c'est-à-dire qu'ils sont pour une relance budgétaire et pour sortir des traités européens du pacte budgétaire et de Maastricht. Et puis, une écologie radicale, les 5 étoiles du mouvement symbolisent justement l'eau publique, le développement durable, etc. Les promesses de nouvelle économie et de révolution industrielle inspirées de ce que propose Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle.
Jérémy Dousson, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.
Pour toutes ces informations, on se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Jérémy Dousson, directeur général adjoint du magazine Alternative Économique, auteur du livre « Un populisme à l'italienne » sur le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo en Italie. Jérémy Dousson, dans le numéro de ce mois-ci de votre magazine, il y a un article sur l'économie italienne qui serait marquée par une embellie fragile. La croissance redémarre, mais la dynamique reste précaire, écrivez-vous. L'incertitude de ces élections pèse-t-elle sur ce constat ou au contraire, cette incertitude est-elle née des faibles résultats économiques constatés ?
Exactement, on a une double page, même trois pages sur l'économie italienne à l'approche des élections. Et c'est vrai que pour la première fois depuis assez longtemps en Italie, un gouvernement sortant, alors plutôt le gouvernement de centre-gauche du Parti démocrate, peut articuler un bilan plutôt intéressant sur le plan économique, avec une croissance aux alentours de 1,5%, la création d'un million d'emplois ces dernières années en Italie. Alors à tempérer, il s'agit plutôt d'emplois précaires, et puis il s'agit aussi de simplement avoir réussi à surfer une vague de reprise qui est plutôt européenne et peut-être liée aussi à la politique de Mario Draghi. Maintenant, l'Italie continue son processus assez long et douloureux d'adaptation aux exigences de la mondialisation, que ce soit avec des gouvernements de centre-gauche, de centre-droit ou les deux à la fois, sachant que ça aura échappé à personne. On est plutôt favorable à l'alternative économique, à étudier des alternatives économiques à ces exigences de la mondialisation.
Alors justement, parmi les électeurs du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, beaucoup dénoncent l'écart grandissant entre les élites et le reste de la population. On parle bien de l'Italie. C'est le cas d'Ada, enseignante à la retraite, interrogée par Anne Lenir.
Il y a une distance énorme entre politique et électeurs. Il faut mieux répondre aux besoins du peuple italien, aussi bien au niveau de la santé, du travail que de la famille. Les familles se désagrègent pour des raisons économiques et parce que les valeurs se perdent.
La sensation de déclassement, c'est un moteur électoral pour le mouvement 5 étoiles ?
Alors c'est un moteur électoral, sachant que généralement le vote des oubliés de la mondialisation ou des déclassés a tendance plutôt à finir à l'extrême droite. On se rend compte en Italie que le mouvement 5 étoiles est un réceptacle en fait pour ce vote-là aussi, sachant que dans les écarts entre les plus riches et les plus pauvres en Italie s'accroît comme partout, et d'un point de vue politique, il est symbolisé par le fait que Silvio Berlusconi a plus de 81 ans, qui est lui-même multimilliardaire et qui détient un groupe privé audiovisuel, Mediaset, est encore là et sera sûrement en position de faiseur de roi après les élections de ce week-end.
Alors dans les remerciements à la fin de votre livre, vous écrivez que votre cerveau est sensible aux questions soulevées par les populismes. Voulez-vous dire que ces questions sont légitimes ?
Alors c'est vrai que Beppe Grillo, dans un de ses spectacles, qui s'appelle Cervello, il s'en prend au cerveau un organe qui serait pas capable de se protéger contre la désinformation. Et c'est vrai que je dis dans mon livre que je pense que mon cerveau est toujours tiraillé entre un cerveau rationnel, assez démocrate, conscient du confort dans lequel on vit tous, et puis on a tous aussi un cerveau reptilien qui a un petit peu plus envie d'en découdre et qui se dit quand même effectivement cette montée des inégalités, la façon dont on traite l'environnement et parfois même d'autres pays, pose quand même question et appellerait des réponses qu'aujourd'hui la politique traditionnelle n'apporte pas. Et donc c'est vrai que ce type de mouvement populiste, s'ils apportent peut-être de mauvaises réponses, en tout cas ils essaient de répondre à des bonnes questions.
Le cerveau reptilien de Beppe Grillo, et le vôtre d'ailleurs, et le mouvement 5 étoiles, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Avant cela, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur l'actualité en France avec l'annonce lundi des grands principes retenus par le gouvernement concernant la réforme de la SNCF, le transporteur ferroviaire national. Dans son annonce, le Premier ministre, qui déclare vouloir aller vite dans ce dossier, a clairement repris à son compte l'essentiel des préconisations contenues dans un rapport, celui du haut fonctionnaire et ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, lequel suggère de modifier le statut des cheminots, de réorganiser le trafic en arrêtant certaines lignes et de recourir aux ordonnances. Tout ce que craignaient les syndicats. Édouard Philippe.
Face à l'urgence, le gouvernement est déterminé à en faire voter les principes clés avant l'été, À la mi-mars, nous déposerons un projet de loi d'habilitation au Parlement. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Dès cette semaine et pendant toute la durée du processus législatif, nous mènerons des concertations méthodiques sur les différents aspects de la réforme. La ministre va en décrire les modalités dans quelques instants. Le projet de loi donnera évidemment lieu à un débat parlementaire. Mon ambition, au fur et à mesure des progrès de la concertation, et même dans toute la mesure du possible, de remplacer les articles d'habilitation par les dispositions législatives définitives afin de réduire le contenu des ordonnances aux seuls aspects techniques. Mais si certains sujets s'enlisent au cours des concertations, en pâtissant de tentatives d'obstruction ou de rapports de force verrouillés, si certains tentent de confisquer le débat ferroviaire pour le pervertir en un débat idéologique déconnecté des besoins des mobilités des Français, alors le gouvernement prendra ses responsabilités.
Parmi les réactions, celle du syndicat Sudrail qui promet dès maintenant un long conflit avec l'État et donc des grèves à répétition. Éric Meyer parle de provocation. Il est en colère contre le projet et sa méthode, et cela s'entend.
Aujourd'hui, on stigmatise les cheminots et leur statut comme étant responsables de l'état du système. On ne règle pas le principal problème qui est celui de la dette d'État du ferroviaire. Et on veut avancer comme ça en livrant les cheminots à la vindicte populaire. Pas de débat, pas d'échange, pas de concertation autour des politiques publiques de transport, des politiques d'aménagement du territoire et de continuité territoriale. Donc oui, pour nous, clairement, on est dans la provocation. Oui. C'est un passage en force avec un semblant de concertation. On n'est pas dans le schéma d'un dialogue serein et constructif. Ce qu'on réclame, c'est la tenue d'assises du ferroviaire avec l'ensemble des parties prenantes, régions, associations d'usagers, organisations syndicales de cheminots, pour pouvoir définir quel service public ferroviaire on veut pour demain, qu'on puisse légiférer sur les bases de la sortie des assises et pas sur des bases tronquées et floues telles qu'elles nous ont été posées ce matin par le Premier ministre.
Sept jours en France.
Paris accueille en ce moment le Salon international de l'agriculture, un rendez-vous annuel important pour les producteurs et les industriels français du secteur agroalimentaire, mais aussi un passage obligé pour les hommes politiques de premier plan. Le président Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle le week-end dernier, pas plus que son premier ministre Édouard Philippe, venu deux fois. L'affrontiste Marine Le Pen et le ministre de l'écologie Nicolas Hulot non plus. Quant à Laurent Wauquiez, nouveau patron de la droite décomplexée, il y est allé lui aussi deux jours de suite et sans passage n'est pas resté inaperçu. Anne Souhaitemont.
Moi, j'adore Laurent Blosson.
C'est d'abord pour défendre sa région, ses spécialités et ses fromages que Laurent Wauquiez a passé une première journée porte de Versailles.
Bon, c'est bien, bravo. Et magnifique.
Président de la région Rhône-Alpes Auvergne, le nouveau patron de la droite est à l'aise. Il multiplie, façon Jacques Chirac, les apartés avec les agriculteurs.
Ça va, ça se passe bien ?
Oui, ça se passe très bien, ouais.
Il est bon, hein, il y a du caractère. Hein.
Selfie, verre de Beaujolais dès 9h du matin, demi après le déjeuner.
Oui, une petite bière.
Serrage de main, Laurent Wauquiez est venu dire que lui est aux côtés des agriculteurs, contrairement au président.
Parfois, je suis choqué par la façon dont le président de la République les traite. On a l'impression qu'il ne les écoute pas, qu'il ne les comprend pas. Moi, je crois qu'au contraire, il faut qu'on porte la fierté de notre agriculture. Il faut le défendre.
Défendre l'agriculture, mais comment ? En sortant de l'Europe, de l'euro ? Non, répond Laurent Wauquiez, alpagué sur la question.
Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est que si jamais on sort de l'euro et qu'on se retrouve avec la dette et les déficits qu'on a, on sera complètement emporté par les marchés financiers.
Un tacle en direction de Marine Le Pen, partisane un temps d'une sortie de l'euro et qui sera ce mercredi au salon.
Merci, c'est adorable. Merci à vous. Bon courage.
Merci, bon courage, c'est adorable. Jérémy Dousson, y a-t-il l'équivalent du salon de l'agriculture en Italie où les hommes politiques aiment à se montrer ?
Bon, tous les pays ont leur passage obligé, même si là, en campagne électorale, chaque candidat s'est plutôt concentré sur son électorat. Et notamment, il y a eu une recrudescence d'actes racistes en Italie ces dernières semaines. Et typiquement, les candidats ont voulu participer ou à des mouvements de manifestations antifascistes ou alors à d'autres manifestations qui ont été organisées contre le Jobs Act, la réforme de flexibilisation du marché du travail qui a été faite. Donc, bien sûr des passages obligés, mais en période électorale, chacun insiste sur ses credos et ses chevaux de bataille.
Et on a bien entendu aussi les craintes concernant certaines réformes, notamment la réforme du rail. Est-ce que les mêmes craintes existent en Italie ?
Il y a le même sujet en Italie autour des ferroviaires statales, donc l'équivalent de la SNCF. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie est un des premiers pays à avoir ouvert à la concurrence le rail. Et il y a même, c'est peut-être même le seul pays qui a une concurrence sur les lignes à grande vitesse. Typiquement, si vous voulez aller de Milan à Rome en TGV, vous pouvez prendre les ferroviaires statales ou alors Italo, qui est une compagnie privée et qui d'ailleurs a été vendue pour 2 milliards d'euros en début d'année à un consortium américain. Elle avait été créée il y a quelques années par un autre consortium d'hommes d'affaires et de banques, de groupes d'assurance italiens.
Une entreprise qui marche bien, semble-t-il, qui fait des bénéfices.
Des bénéfices. Alors, les cassantes diront qu'on organise la faillite des ferroviaires statales pour permettre à un groupe privé de se développer, et les pros diront que le privé gère mieux que le public le ferroviaire.
Une semaine d'actualité.
Coup de force terroriste en plein cœur de Ouagadougou hier à la mi-journée. Explosions et tirs d'armes à feu ont retenti dans le quartier de l'ambassade de France au Burkina Faso. Voici l'un des tout premiers témoignages recueillis par notre correspondant sur place, Yaya Boudani.
Je me suis retrouvée vers l'avenue de l'Indépendance et j'étais au service. Je suis sortie pour prendre une commission et je me suis retrouvée dans l'action. Et en un temps record, on a vu la fumée, on a entendu le coup de tir. Et les gens ont commencé à replier. Ça venait dans tous les sens. Et je suis tombée de ma moto, je me suis relevée. Et puis, je suis toujours dans mes émotions. Vraiment, c'était vraiment dramatique. On a également vu la police qui essayait de dire aux gens de replier, de changer de direction, de ne pas aller en ville.
Voilà, je renvoie à nos journaux d'information pour avoir plus de compléments sur cette affaire. À noter, sans que cela ait forcément un lien, que le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina a été suspendu sine die mardi soir après le retrait de l'ensemble des avocats de la défense. Ces derniers contestent la légalité du tribunal militaire. 4 casques bleus des Nations Unies tués au Mali mercredi lorsque leur véhicule a explosé sur une mine, ce qui porte à 8 le nombre de soldats de la paix tués depuis le début de l'année dans le pays. Le Mali, où une nouvelle vidéo de Sophie Petronin a été mise en ligne jeudi soir. Cette Française de 72 ans a été enlevée par des hommes armés fin 2016 à Gao, où elle dirigeait une association venant en aide aux orphelins et aux femmes enceintes. Alexandra Branjon.
Une vidéo d'une minute trente sans aucun commentaire. Sur fond noir apparaissent de grosses lettres dorées SOS, Save Old Sophie, Sauver la vieille Sophie en anglais. On y voit ensuite une perfusion, des médicaments filmés de près, Sophie Petronin allongée sur un lit dans ce qui semble être une tente, puis gros plan sur son visage et elle se frottant un œil. En fond sonore, des battements de cœur et la voix du président français Emmanuel Macron qui répète en boucle « Je vous protégerai ». La vidéo s'arrête brusquement. Elle est signée El Azza Productions, l'agence de production du groupe djihadiste, et est datée de mars 2018. La dernière fois qu'une vidéo de l'otage française a été diffusée, c'était en juillet 2017, la veille d'une visite du président Macron au Mali.
Bachir Saleh, l'ancien directeur de cabinet et ex-argentier du colonel Kadhafi en Libye, a été touché par balle en Afrique du Sud. Une agression qui est intervenue alors que la victime circulait en voiture dans la banlieue de Johannesburg. Bachir Saleh est notamment réclamé par la justice française dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle en 2007. Si la police locale avance l'hypothèse d'un crime crapuleux, les proches de Bachir Saleh évoquent plutôt la tentative d'assassinat. C'est le cas de Mustapha El Zaidi, interrogé par Ouda Ibrahim.
L'opération ne présente pas un aspect criminel parce que ceux qui l'ont effectuée n'ont rien volé, ni les papiers importants qui étaient dans la voiture, ni l'argent, il y en avait aussi, ni la voiture elle-même. C'est une opération organisée dans un but certainement autre que le simple vol. Elle est différente des vols très répandus à Johannesburg. Pour nous, il est certain que le motif n'était pas banal et que le but n'était pas de voler. Ils étaient 5 et ils ont voulu assassiner Bachir Saleh. Nous n'accusons personne. Nous, nous souhaitons que les autorités d'Afrique du Sud, ainsi que les chefs africains avec qui le docteur Bachir Saleh entretenait des relations, bonnes et personnelles, nous voulons qu'il y ait une enquête sérieuse sur cette tentative d'assassinat. Bachir Saleh est toujours dans un état critique, il est toujours en soins intensifs, sous assistance respiratoire. Il souffre actuellement de déchirements dans les intestins et les voies urinaires. Selon les médecins, il a bel et bien été touché par des balles explosives.
Jérémy Dousson, l'Italie est très attentive à la situation en Afrique noire, d'autant que les différentes situations conflictuelles créent un flot de réfugiés important dont l'Italie supporte l'essentiel du poids pour l'Europe. Est-ce que cela aura un impact sur le résultat de ces élections de dimanche ?
Un gros impact, effectivement, l'Italie est très attentive à ce qui s'y passe, et notamment autour du débat qui concerne l'immigration. En termes de contexte, il faut avoir en tête qu'il y a de l'ordre de 150-160 000 migrants qui arrivent sur les côtes italiennes chaque année, et qu'il y en a à peu près autant, 160 000, qui sont dans le pays et qui en attendent d'aller ailleurs ou alors de trouver une situation sur place. Ça a donné lieu à des saillies assez racistes et xénophobes, notamment de la part de l'extrême droite, de la Ligue du Nord, de Fratelli d'Italia. Et ça a pu polariser une partie de l'électorat, notamment l'an dernier, quand on était au pic des arrivées de migrants, où on voyait qu'aux élections communales, la Ligue du Nord faisait des scores très très élevés. Cette année, les arrivées ont ralenti, et donc on sent que, même si ça reste un sujet très important, ce ne sera pas forcément là-dessus que va se cristalliser le résultat de dimanche.
Est-ce que l'Italie fait le distinguo entre les réfugiés qui viennent d'Afrique noire et ceux qui viennent notamment de Syrie ou d'Afghanistan ?
Alors, clairement, ils font le distinguo et les dirigeants des partis d'extrême droite le font, et notamment Matteo Salvini qui déclare qu'il ne voit pas beaucoup de réfugiés syriens qui fuient la guerre, mais beaucoup plus de personnes qui viennent d'Afrique noire pour trouver du travail. Et donc ça alimente sa rhétorique anti-migrants qui viendraient, alors on dirait en France, voler le pain des Italiens. Donc très clairement, ils font ce distinguo-là.
Et au sein du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, est-ce qu'il y a un débat autour de l'immigration ?
Alors il y a clairement un débat, de toute façon personne n'y échappe en Italie. Il faut savoir que le débat italien c'est plutôt droitisé, il y a plus de fermeté sur ces questions-là, et la position du mouvement 5 étoiles c'est de tarir les flux d'émigration, les pays d'émigration, et donc notamment en augmentant la coopération, les budgets qui sont alloués à l'aide au développement, en interdisant la vente d'armes aux pays qui sont en situation de conflit, ce genre de situation qui permettrait de résoudre à moyen long terme la situation. Par contre, sur le court terme, ils sont sur la même ligne que le Parti démocrate, typiquement financer les milices en Libye pour que les migrants restent de ce côté-là de la Méditerranée, avec toutes les limites qu'on connaît à cette politique-là.
On continue, si vous le voulez bien, dégrainer l'actualité en Afrique avec ce qui se passe au Cameroun, le pays qui se demande si son président n'est pas un courant d'air. En tout cas, il se le demande après les révélations de l'organisation OCCRP qui regroupe des journalistes d'investigation et qui travaille avec l'ONG Transparency International. En effet, depuis son accession au pouvoir, Paul Biya aurait passé plus de 4 ans et demi hors du pays, essentiellement en Suisse, en France et aux États-Unis, le tout pour des frais de déplacement estimés à au moins 65 millions de dollars. Anne Kantner nous détaille ce dossier.
Le président camerounais a passé 1645 jours hors de son pays depuis son arrivée au pouvoir. Pour arriver à ces chiffres, les journalistes qui ont mené l'enquête sont allés fouiller les archives du Cameroun Tribune, quotidien créé par le gouvernement camerounais et qui consacre un article au chef de l'État à chacun de ses déplacements. Pour estimer le coût des voyages, les auteurs ont simplement multiplié le nombre de jours par le prix d'une nuit d'hôtel à l'Intercontinental de Genève, où Paul Biya a ses habitudes. À ces 65 millions de dollars, il faut ajouter, entre autres, les frais de location d'avion. Les journalistes ont eu accès, par exemple, à une facture de 850 000 dollars pour un aller-retour Yaoundé-Genève. Selon cette enquête, Les trois quarts de ces voyages sont d'ordre privé et pourtant, explique Emmanuel Freudenthal, l'un des journalistes qui a mené cette enquête, il est très probable que des fonds publics servent à financer ces déplacements.
Ça vient soit du budget de la présidence, soit assez probablement aussi des caisses de la Société nationale des hydrocarbures, en fait, qui a à peu près la moitié de son budget qui est hors budget, en fait, donc qui est aussi assez opaque, on ne sait pas exactement où va cet argent.
Le Fonds monétaire international a déjà demandé davantage de transparence et estime que plus de 300 millions de dollars des revenus de la Société nationale des hydrocarbures sont dépensés hors budget. Sollicitées pour réagir à cette enquête, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité faire de commentaires.
Jérémy Dousson, l'Italie n'est pas le Cameroun, mais cette défiance des populations envers un pouvoir plus ou moins corrompu, ou en tout cas capteur de richesses, explique-t-il la montée d'un mouvement comme le 5 étoiles ? Est-ce cela que vous appelez dans votre livre « Un populisme à l'italienne » publié aux éditions des Petits Matins, une souffrance démocratique ?
Exactement, c'est le même principe et c'est vrai que cette défiance envers les politiques et la classe politique, elle n'est pas propre à l'Italie. On voit qu'effectivement elle peut s'exprimer en Afrique ou même dans d'autres pays européens. Et d'ailleurs le mouvement 5 étoiles souvent prend des mesures alors plus symboliques, mais en tout cas qui parlent à l'électorat. Alors notamment les élus du mouvement 5 étoiles s'engagent à reverser la moitié de leurs émoluments, de leur salaire, dans un fonds qui va aller soutenir les petites et les moyennes entreprises. Ils ont reversé par exemple 23 millions d'euros sur ces 5 dernières années.
Et que propose le mouvement 5 étoiles pour renverser ce pouvoir confiscatoire des élites ?
Alors, pour renverser le pouvoir confiscatoire des élites, un mouvement populiste, en tout cas, il prône ça. Ce qu'ils souhaitent, c'est prendre le pouvoir et mettre en place une démocratie directe qu'ils ont déjà mis en place d'une certaine manière à l'intérieur du mouvement. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a une plateforme internet qui s'appelle la plateforme Rousseau. Les gens peuvent s'inscrire dessus et faire des propositions de loi qui sont ensuite, si elles sont votées et plébiscité par le reste des internautes et des inscrits, être proposé au Parlement. Et puis les gens peuvent aussi réagir aux propositions de loi du mouvement et à ce qui se passe dans les assemblées. Et donc c'est tout un système de vote, de participation des gens qui est mis en place au sein du mouvement et que le mouvement 5 étoiles ambitionnerait de mettre au niveau national.
Alors on l'a dit tout à l'heure, le mouvement semble en tête une fois encore des sondages. Il se comporte comme un mouvement largement à part et très autonome. Mais est-ce que des alliances avec d'autres partis sont envisageables ?
Alors, historiquement, non. Beppe Grillo dit lui-même que c'est comme demander à un panda de manger de la viande. Un panda mange du bambou et pas de la viande. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement 5 étoiles réussit quand il arrive à allier un courant contestataire, protestataire, comme pouvait l'incarner Beppe Grillo, et puis un mouvement plus institutionnel, comme peut l'incarner aujourd'hui Luigi Di Maio. Un petit peu comme notre parti socialiste en France, qui arrivait à faire coexister un courant de gauche radicale et un courant de gauche de gouvernement. Quand les deux arrivaient à travailler ensemble, ils arrivaient au pouvoir. Le mouvement 5 étoiles, c'est la même chose. Et aujourd'hui, Luigi Di Maio envisage, pourquoi pas, des alliances. Alors, sur une modalité très simple, s'ils gagnent les élections et qu'ils ont une majorité relative, ils proposeront une équipe de gouvernement et ils diront à l'Assemblée qui nous aime, nous suivent. Et là, ils verront les parlementaires qui sont d'accord pour les soutenir.
Alors, dans ces discours, comme d'ailleurs dans ses spectacles, Beppe Grillo fustige la perte de sens dont nos sociétés seraient victimes. Qu'entend-il par là ?
Exactement. Alors, il y a une critique anti-système politique et puis il y a une critique anti-système économique. Et donc, très clairement, par perte de sens, il critique le PIB qui serait la boussole de nos économies et de nos politiques. Il a un raisonnement sur tout ce qui est de décroissance et justement le fait qu'aujourd'hui, on aurait tendance plutôt à vivre pour travailler plutôt que travailler pour vivre. Et donc, dans la proposition du mouvement 5 étoiles, il y a aussi l'idée d'articuler un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de se développer et qui sort un petit peu des vieilles anciennes de la finance ou du PIB et de la croissance.
Alors, il dénonce par exemple le fait que nous soyons devenus des ressources humaines, comme il y a des ressources naturelles, le pétrole, le charbon, ou des ressources industrielles. Est-ce que c'est un discours qui porte vraiment en Italie ?
Alors, c'est une bonne question parce qu'on se rend compte que c'est un discours qui est très présent dans l'argumentaire et le programme du mouvement 5 étoiles, mais qui dans les enquêtes d'opinion, au final provoque assez peu le vote mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils votent mouvement 5 étoiles, parmi ceux qui votent pour le mouvement, ils vont d'abord mettre en avant les aspects institutionnels, par exemple, donc on en a marre de cette classe politique, mais les questions environnementales ou de mode de vie arrivent en 6e, 7e position. Donc c'est vraiment mis en avant par le mouvement, mais au final c'est pas vraiment ça qui provoque le vote 5 étoiles.
Et une fois qu'on a dit tout ça, quel est l'avenir réellement pour le mouvement 5 étoiles? Est-ce qu'il peut arriver au pouvoir et gouverner?
Alors aujourd'hui, il y a une loi électorale qui très probablement l'empêchera de gouverner seul en tout cas. Donc là, la loi électorale favorise plutôt les coalitions. Le mouvement 5 étoiles, en revanche, lui a vocation à gouverner avec son équipe si jamais il arrive, comme je disais tout à l'heure, à avoir une majorité de parlementaires qui le suit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les alliances qui étaient impossibles jusqu'à la prise de pouvoir de Luigi Di Maio en septembre dernier au sein du mouvement sont aujourd'hui possibles. Et moi, je serais pas surpris de voir Luigi Di Maio essayer de participer aux tractations entre Silvio Berlusconi et Matteo Renzi au lendemain des élections.
Vous dites également dans votre livre que l'Italie est souvent un exemple de ce qui se passe en politique, d'abord en Italie et ensuite ça arrive en Europe. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez?
Effectivement, alors je reprends ce que dit Giuliano D'Empoli, qui est un proche de Matteo Renzi et qui montre effectivement que l'Italie a souvent été le laboratoire politique de l'Europe, puisque c'est là qu'est apparu le fascisme, c'est là qu'on a eu un des partis communistes les plus puissants d'Europe et c'est là aussi où on a vécu la personnalisation de la vie politique. Et aujourd'hui, dit Giuliano D'Empoli, un populisme à l'état brut avec Beppe Grillo. Et c'est vrai que quand on regarde la forme du mouvement 5 étoiles, on parlait de démocratie plébiscitaire, on voit que quelques années après, on a eu des partis tout à fait similaires en France qui ont apparu et qui ont même gagné les élections.
Merci Jérémy Dousson, directeur général adjoint du magazine Alternative Économique.
Merci à vous.
Et je renvoie à votre livre « Un populisme à l'italienne » publié aux éditions des Petits Matins. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Arvensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page « Une semaine d'actualité » sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.